Bonjour et bienvenue sur L'Octet Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche.
Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan?
J'ai ma chaîne qui a sauté.
Oh là là, donnez-moi ça. Je vais vous réparer ça.
Hey, pour aller plus vite, oui. Vous allez garder le mien qui ne marche pas et moi je vais prendre le vôtre. Allez,
allez. Mais dites donc, on est là?
Je m'appelle Tristan Nitto et pour une fois, on va plus se focaliser sur la mobilité que sur le numérique, car je reçois aujourd'hui Hélène Jacquemin de l'association INVD. INVD, ça veut dire innovation, véhicule doux, et dont l'objectif est, je cite, de trouver des solutions de mobilité soutenables en territoires ruraux et de les faire pratiquer par le plus grand nombre. Fermez les guillemets. Mais avant de faire ça, Hélène a eu plusieurs vies professionnelles. Elle a d'abord travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque des SS2I, Société de Services en Ingénierie Informatique. Maintenant, pour les jeunes, on appelle ça des ESN, Entreprises de Services du Numérique. Et donc, dans les SS2I, elle a terminé responsable d'un centre de profit. Ensuite, elle a eu une autre vie qui était de faire de la formation et de la médiation dans les entreprises. Et depuis 2 ans, elle a entamé une nouvelle vie professionnelle dans un village qui s'appelle Castelnau-Péguérol. Alors j'ai demandé sur Google Maps, hein, et ben au début il m'a fait un message d'erreur comme quoi il trouvait pas du tout. Alors là j'ai commencé à flipper, je sais pas, il lui manquait un accent ou un S ou je sais pas quoi. Il a fini par trouver près de Millau dans l'Aveyron. Voilà, et donc là-bas elle est coprésidente de l'association INVD. J'ai bon ou pas, Hélène?
Oui, jusque-là, ça va.
Bon, bonjour.
Oui, oui, j'habite bien à Castelnau-Péguérol, dans une tour qui fait partie des anciens remparts du village. C'est un village de 80 habitants.
Ah oui, une tour, alors moi j'imaginais une tour, un building, un machin de 70 étages. Non, non, toi c'est une tour médiévale.
Oui, oui, c'est ça.
Et alors donc, quel âge as-tu?
J'ai 61 ans.
Et tu commences donc ta énième vie professionnelle?
Oui.
En tant que coprésidente de INVD?
Oui, c'est ça. Bénévole, en plus. C'est génial, une vie professionnelle où on est bénévole. Mais effectivement, j'ai démarré ça. C'est une association qu'on a cofondée avec mon mari en décembre 2018. Et voilà. J'y suis toujours.
Bon. Comment es-tu arrivée à prendre conscience de la crise climatique?
Je vais être obligée de parler de mon histoire d'amour, alors avec mon mari aussi.
Ah bah si tu veux, bah, t'as le droit. Bah, non, et là, tu vois, c'est un truc dont on parle pas assez sur ce podcast-là, donc c'est bien, une histoire d'amour, ça va me faire une case cochée en plus.
Oui, allez, j'y vais. Donc, en fait, c'est ma deuxième histoire d'amour, puisque j'ai rencontré mon mari quand j'étais veuve avec mes 3 enfants, et mon mari actuel, donc comme il se fait appeler, il aime bien. C'était une époque où j'avais du mal à joindre les deux bouts, les fins de mois étaient un peu compliquées, et quand j'ai rencontré Michel, il m'a dit, bah écoute, la sobriété, c'est bien. On était en 2009, et sobriété, j'ai pris ça comme un vilain mot. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ce que je fais, c'est très bien. Comme j'ai des difficultés à joindre les deux bouts, eh bien, tu peux imaginer que je fais très attention. Il m'a dit, mais oui, mais ça, c'est pas la sobriété.
Non, c'est la misère, ça. C'est quand c'est subi. C'est pas pareil. C'est la pauvreté. C'est pas,
ça.
Enfin, je veux pas mettre des mots dramatiques sur ta vie, mais, voilà, la sobriété, c'est quand on choisit.
Oui. Oui, exactement. Là, c'était pas vraiment choisi. Et lui qui arrive avec ses gros sabots en disant ça, je me suis dit, mais ce gars, il débarque d'où? Et en fait, c'était drôlement intéressant parce qu'il a très vite compris que je ne savais pas résister à un défi. Et il m'a mis au défi, justement, de changer ma façon de vivre mon alimentation et de faire mes déplacements professionnels, puisqu'à l'époque, je faisais beaucoup, beaucoup de déplacements professionnels sur toute la France. Et bien sûr, moi, je lui ai dit, mais non, lâcher la voiture, ça n'est pas possible dans notre coin. Se nourrir autrement, ça n'est pas possible. Je suis une femme de conviction, évidemment. Donc, évidemment, j'ai changé.
Et à l'époque, t'étais à côté de Castelnau-Péguérol ou t'étais ailleurs?
J'étais à Millau. J'habitais à Millau. Et lui habitait à Castelnau-Péguérol dans sa tour. Et il venait me voir à vélo. Je le traitais de doudingue, mais je trouvais ça attendrissant.
Parce qu'il y a quand même combien? Une petite vingtaine de kilomètres, quoi.
Il y a 20 km aller, 20 km retour et 800 mètres de dénivelé positif.
Ah oui, c'est ça qui fait mal quand même.
Hein. C'est ça, il avait mal au dos. Donc il allait voir sa belle en bas et puis il remontait et il était au lit pendant 24 heures parce qu'il n'avait pas l'entraînement et c'était compliqué. Voilà, donc il a pris du vélo électrique un jour. Il a acheté en Chine un kit électrique qu'il a installé sur son vélo et ça a changé sa vision des possibilités à vélo. Et un jour, il m'a offert un vélo alors que je lui avais dit aussi, au cours d'une randonnée de quelques jours qu'on faisait dans le Nord Aveyron, je lui avais dit, mais tu sais, moi, tu mettras jamais mon cul sur un vélo.
Eh bien, si.
Et donc, il m'a offert un vélo. Voilà. Et quand on s'est marié en 2015, c'est moi qui ai organisé notre voyage de noces à vélo. On est parti de Castelnau-Piguerol, on a traversé la Suisse, un bout de l'Autriche, on a remonté l'Allemagne, on est allé jusqu'à Amsterdam et on est redescendu par la Belgique et la mer du Nord.
Ça, c'est pas vraiment la crise climatique. T'as pris conscience de l'importance de la sobriété et du fait qu'elle est choisie plutôt que subie. Quel rapport, tu dirais, entre la crise climatique, ou peut-être que c'est pas un sujet dont t'as envie de parler, toi tu veux juste parler de sobriété?
J'ai trouvé que c'est intéressant justement cette question sur comment j'ai pris conscience de la crise climatique, parce que c'est le fait de me rendre compte que je pouvais me nourrir autrement et que je pouvais me déplacer autrement qui petit à petit m'a amenée à écouter un peu plus mon mari quand il me parlait des enjeux de la transition énergétique et de la crise climatique. Et la prise de conscience, elle s'est faite progressivement en fait. C'est en l'écoutant, en voyant les actions qu'il menait lui, en l'écoutant exprimer à voix haute aussi ses interrogations et essayer de trouver des informations sur ce qui se passait. Donc, on était dans les années 2010. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose de particulier. Et je crois qu'un des éléments qui m'a le plus marqué, j'ai passé des années à être sur les routes, à faire parfois 50 000, 60 000 kilomètres par an en voiture, et je trouvais ça normal, même si c'était beaucoup pour le travail, mais voilà, c'était la voiture, c'était bien, voilà, j'étais dans ce schéma-là. Et un jour, mon mari m'a dit, mais quand même, quand on réfléchit, un engin qui pèse 1,5 tonne et qui déplace 80 kilos, c'est une aberration. Et là, j'ai été choquée de me rendre compte que je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Il a fallu qu'ils me le disent pour que je réalise l'aberration dans laquelle je circulais.
Ouais.
Ça m'a marqué. Voilà. Je me dis, mais comment je peux être bête au point de ne pas m'être rendu compte de ça?
Et ce que tu as dit juste avant, c'est qu'en fait, il te disait des choses sur la consommation d'énergie, sur le besoin de changer, mais tout ça, ça te semblait impossible jusqu'à ce que finalement, peut-être par amour, enfin, ou parce qu'il te mettait devant le fait accompli, je t'ai acheté un vélo, ça devenait possible, enfin, tu le faisais, et c'est en le faisant que tu as réalisé que jusqu'à présent, tu t'étais trompé.
Oui.
C'est comme si on t'avait menti, enfin, on t'avait imposé une idée qui est, pour se déplacer, on prend la voiture, c'est normal. Voilà, c'est comme ça, et c'est normal. Et puis, jusqu'à ce qu'on te dise, non, mais regarde, on peut se déplacer à vélo. Et puis après, c'est, regarde, tu peux te déplacer à vélo, et j'ai l'impression que c'est là que tu as eu le déclic. C'est-à-dire que lui, il le faisait déjà, le vélo, tu vois. Mais c'est le jour où toi, tu l'as fait, que finalement, tu t'es dit, il y a un semblant de... Enfin, peut-être que je comprends de travers, je ne sais pas.
Il y a ça, je suis passée par une phase de honte, en fait, quand j'ai réalisé que lui se posait beaucoup de questions pour essayer de comprendre comment il fonctionnait, dans quel environnement il vivait. Et moi, je prenais tout pour acquis. Il faut acheter une maison, il faut acheter une voiture, il faut acheter un frigo, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est comme ça, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Et je ne m'interrogeais pas plus que ça. Je voulais pour mes enfants le meilleur. Et je ne m'interrogeais pas plus que ça sur... Mais c'est quoi le meilleur quel sera le meilleur pour mes enfants? Et puis j'étais donc quand même dans une situation où j'étais pas mal en mode survie aussi. Hein.
Oui, alors se poser des questions alors qu'on est en mode survie, enfin c'est déjà dans une situation pas confortable. Mais c'est vrai que se poser des questions, il y a un côté inconfortable et ça rajoute de l'inconfort. Et à un moment, trop c'est trop quoi.
Oui.
On n'a pas envie d'avoir de la charge mentale supplémentaire, de l'inquiétude supplémentaire.
C'est ça. Et le déclic vraiment, ça a été lorsqu'il m'a mise au défi. Il m'a dit, mais je vais t'aider, tu vas voir, tu vas consommer différemment et financièrement, tu vas t'y retrouver. Et il avait raison. Et j'étais furieuse qu'il ait raison. Et en même temps, j'étais super contente d'avoir franchi ce pas et de me rendre compte que, j'étais capable de changer, de me remettre en question. J'ai trouvé aussi à titre personnel, une certaine fierté. Je suis toujours partie du principe que l'humain a une capacité d'adaptation formidable. Et là, je me challengeais moi-même d'être capable de m'adapter à de nouvelles façons de faire. Donc, j'étais assez contente. Et en même temps, j'étais sacrément honteuse de tout ce à quoi j'avais contribué et dont je prenais conscience au fur et à mesure où je progressais dans la sobriété de consommation, la sobriété aussi des mobilités.
Oui, alors là, je vais faire mon coming out pour ceux qui savent pas. Moi, je me suis longtemps défini comme motard, passionné de moto. J'ai eu jusqu'à 7 motos. Dans toute la maison, il y a des revues de motos chez moi. Et bah, j'ai fait un peu comme toi. Aujourd'hui, il y a 4 ans, j'ai changé de boulot et y aller en transport en commun était très compliqué. Je me dis, je vais pas me racheter un scooter, quoi. Je viens de vendre le mien. Je vais tellement mieux depuis que je prends plus le scooter. Et comment je fais pour y aller? Et c'est là que je me suis décidé à y aller en vélo à assistance électrique. Et bah en fait, ma vie a basculé et j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, quoi.
Et quel plaisir tu y as trouvé, toi, alors, d'aller à vélo ?
Déjà, beaucoup plus détendu. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire des efforts physiques pour aller bien dans ma vie, quoi. Enfin, parce que j'ai un boulot d'informaticien, des responsabilités dans les boîtes, une vie stressante. J'étais en surpoids et le matin, je sautais sur mon scooter, j'allais bosser, je restais toute la journée à mon bureau et puis le soir, je sautais sur mon scooter, je roulais sur le périphérique parisien où c'était dangereux, enfin, où il y avait régulièrement des accidents, je voyais des motards éclater par terre et tout et je me disais, ah, pourvu que ça soit pas moi ce coup-ci. Enfin, j'avais une vie de merde, quoi. Je me suis rendu compte que à partir du moment où je prenais le vélo, je faisais un exercice physique qui était vraiment très bénéfique pour moi, que mon corps, je l'avais complètement mis de côté pendant longtemps, comme s'il y avait que mon esprit qui comptait, que ma tête, tu vois, qui comptait, et que le corps était un véhicule qui n'avait pas d'intérêt. Et j'ai fait une dépression, parce qu'en fait, ma vie me convenait pas. Et finalement, en sortant de cette dépression, en me mettant au vélo, en étant en meilleure forme physique, en ayant du temps pour faire des efforts physiques, tout ça fait que ma vie, elle a été améliorée de façon absolument incroyable par plein de choses qui se sont cumulées, mais le vélo en est une partie importante.
C'est drôlement intéressant ce que tu dis, parce que le rapport qu'on a à notre corps, il est complètement faussé. On a oublié les ressources dont dispose notre corps. Chaque fois que je propose à des gens d'enfourcher le vélo, ce qu'ils n'ont pas fait depuis des années, je sens chez eux, au-delà de ce qu'ils annoncent, une crainte qui est-ce que physiquement je vais être capable de faire ? Et quand ils découvrent ces gens-là qui sont capables effectivement de faire des tours de pédale, de faire 1 km, 3 km, 5 km, 14 km, et puis qu'ils y trouvent du plaisir, c'est le moment où ils réalisent qu'ils ont de la ressource physique qu'ils avaient complètement oubliée, complètement mise de côté.
Et qui est une ressource physique, alors je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est en plus cette ressource physique, elle se renouvelle, en ce sens que moi, au début, j'ai pris un vélo à assistance électrique parce que il y avait une colline entre le bureau et chez moi et que les jours où je devais mettre une veste et des chaussures qui brillent parce que j'allais au client, il fallait que j'arrive sans transpirer, donc j'avais pris un vélo à assistance électrique pour aussi pour me rassurer, mais en fait maintenant mon vélo à assistance électrique est sur le balcon et je m'en sers quasiment jamais parce que j'ai développé des muscles et maintenant, cette même colline, je la monte juste pour le plaisir de la monter parce que derrière il y a le bois de Boulogne et ça me permet d'aller prendre l'air dans les bois, tu vois. Alors qu'avant c'était un obstacle monstrueux mais que j'arrivais à dépasser grâce à l'assistance électrique. Maintenant je n'ai plus d'assistance électrique et pourtant j'ai pris 4 ans de plus, tu vois. Je ne me suis pas, j'ai pas rajeuni.
T'es bien que seul.
Mais non, parce que le vélo m'a fait rajeunir par rapport à mon maximum de poids. J'ai perdu 25 kilos, tu vois. Oui. Donc c'est plus facile et maintenant je prends des vacances à vélo, tu vois.
C'est ça. Tu exprimes ce que je constate chez tous les gens qui basculent effectivement sur le vélo à assistance électrique. Moi, de mon côté, tu sais, je conduis un Vegoto, qui est un véhicule intermédiaire innovant. Et quand je suis tranquille sur la route et que je décide de prendre le temps, je diminue l'assistance pour avoir le plaisir d'appuyer sur les pédales et de réapprivoiser, voilà, ces ressources-là et de me dire, ouais, je suis trop forte. Et je sens, tu sais, un peu de muscle, un peu d'abdos, c'est bon pour les cuisses, enfin, tu vois. Et je rigole toute seule, en plus.
Bon, alors, cet épisode s'annonce déjà comme étant un drame, parce que, tu vois, déjà, j'ai pas le temps de te poser des questions. Ensuite, tu me fais parler encore plus que ce que j'avais prévu. Ce qui est déjà un défaut que j'essaye de corriger, bon, bah, sans succès, là, du tout.
Oups.
Oups. Mais alors justement, donc tu t'es mise au vélo et on va dire professionnellement, qu'est-ce que tu fais sur le sujet? Tu nous as parlé de ce véhicule, de ce véloto là, alors vas-y, dis-moi en plus.
Toujours Michel, mon mari actuel, qui dit il doit bien exister quelque chose entre le vélo assistance électrique et la voiture qui permette aux gens qui habitent dans les territoires ruraux avec des dénivelés et des distances de se déplacer autrement qu'en prenant la voiture. Et il s'est dit, voilà, on a besoin de se déplacer en pédalant parce que participer à son déplacement, ça nous fait nous sentir vivants.
Oui.
Et actif, et puis ça développe la bonne humeur aussi, il faut reconnaître, hein. On fait rarement la gueule quand on est à vélo. Il faut pouvoir transporter un adulte, deux adultes ou un adulte et deux enfants. Il faut pouvoir avoir un coffre pour mettre nos affaires, les affaires des enfants, etc. Quatre roues, c'est bien pour la stabilité, suffisamment de puissance dans le moteur et de batterie pour faire des distances qui sont largement supérieures à 5 km, hein, qui sont en moyenne 35 km aller et 35 retour. Tour, voilà, on peut aller jusque-là, et sur des routes partagées.
Avec des véhicules thermiques, quoi.
Voilà ce qu'on appelle un véhicule intermédiaire avec une assistance électrique, bien sûr, parce que trimballer deux personnes sur une pente à 10% juste en pédalant, c'est un peu compliqué.
Donc il se dit, il faudrait ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fabriqué?
Comment ça? Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, on a lancé l'association InVD et on s'est trouvé très rapidement avec plein d'adhérents qui disaient, mais votre idée, elle est géniale, comment est-ce qu'on avance? Et un jour, un de nos adhérents nous dit, j'ai trouvé quelqu'un qui fabrique des quad bikes, donc déjà du tout-terrain vélo à quatre roues. Allez voir parce que votre idée peut l'intéresser. Et effectivement, ce constructeur, qu'on va appeler Hugues, emballé par l'idée, nous dit « Mais ça fait longtemps que je pense à quelque chose comme ça. Votre véloto, là, je vais vous le faire. » Voilà. Et il nous a fait le véloto.
Et c'est un professionnel, Hugues?
C'est un professionnel, oui. Oui. Ingénieur automobile à la base et qui construit des quad bikes depuis 18 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, il y a trois prototypes de ce véloto qui circulent. Et à la fin de l'année, il y en aura deux fois plus. Et puis j'espère que l'année prochaine, il y en aura 20 de plus. Et puis que l'année d'après, il y en aura 100 de plus. Et voilà. Pour ceux qui veulent investir, hein, c'est le moment, c'est un projet qui tient la
place. Ça y est, chouette, du pognon, de la croissance.
Mais oui, c'est ça, de la participation à l'économie verte.
Bon, ah oui, non, mais je savais, voilà, j'avais entendu dire que la France était une nation verte. Tu as peut-être raison, finalement. Donc là, vous en êtes à faire des prototypes avec Hugues. Donc ça ressemble à des vélos, mais à quatre roues. C'est des roues à rayons, enfin ça.
Voilà, il y a une carrosserie, quatre roues, un guidon, des pédales, une place devant, une place derrière. Mais pour la petite histoire, Hugues n'est pas le seul à construire des vélotos, des véhicules innovants de ce type. Aujourd'hui, il y a une petite quarantaine de constructeurs en France qui construisent ce genre de véhicules à pédales qu'on appelle des véhicules intermédiaires. Moi, j'appelle véloto parce qu'on va du vélo pour aller vers un look d'auto, si tu veux, parce qu'il y a quatre roues, c'est stable. Et on travaille avec un projet de l'ADEME qui s'appelle l'Extrême Défi, qui est un super projet aussi, qui est mené par un monsieur de l'ADEME qui s'appelle Gabriel Plassa. On travaille à soutenir le développement de ces projets, de ces petits constructeurs, et nous, InVD, dans l'Aveyron, on expérimente en conditions réelles, auprès de nos adhérents, l'usage de ces vélotos.
D'accord, donc en fait, vous avez des prototypes que vous... Enfin, vous les prêtez, enfin, vous les faites fabriquer,
oui.
Vous les améliorez, parce que voilà, c'est pas exactement les mêmes modèles d'une fois sur l'autre. Vous essayez des trucs, et puis vous avez des gens qui sont là pour les utiliser.
Nos adhérents qui sont super fans.
Voilà, donc en fait, localement, vous êtes en train d'inventer un genre de nouvelle industrie qui est plus compatible avec les limites planétaires, quoi. moins d'essence consommée, de la frugalité dans le transport, peut-être on peut dire ça comme ça.
Mais c'est ça, parce qu'effectivement, dans les territoires ruraux, on a à peu près entre nous, sur notre territoire, entre 2 et 20 habitants au kilomètre carré. Donc on a une très faible densité de population. On ne peut pas mettre en place de transport en commun, c'est beaucoup trop cher. C'est pour ça que certains politiques disent dans la ruralité, il ne peut y avoir que de la voiture pour le déplacement. Mais on connaît les enjeux énergétiques et financiers aussi de l'usage de la voiture sur des territoires ruraux où le revenu moyen, il est deux fois plus faible que le revenu moyen français, tu vois.
Oui, alors si on n'a pas d'argent et que là-dessus on a une voiture qui te coûte une blinde en essence, en assurance, en investissement, en dépréciation, etc. Ben, ça veut dire que des gens qui ont déjà des moyens limités sont en plus appauvris par la voiture.
Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions pour dire à ces gens-là, ben, écoutez, là, on va vous proposer un Végoto qui est 10 fois moins énergivore que la voiture, qui en plus a plein d'avantages parce qu'il contribue à vous garder en bonne santé, parce que même si le pédalage est faible par rapport à l'assistance électrique, mais il y a quand même cette activité physique, tu vois, pendant le déplacement. Tu connais ça, toi qui fais du vélo. Donc, du coup, c'est vraiment un petit engin super intéressant, super sympa, et qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher à l'usage que la voiture. Malheureusement, pas encore à la fabrication, puisque c'est un véhicule nouveau.
Oui, donc c'est pas industrialisé.
C'est pas industrialisé, voilà. Mais en tout cas, sur les ressources énergétiques, rien à voir avec la voiture. Par exemple, une voiture, le poids moyen d'une voiture électrique, c'est 1,6 tonne, 1,7 tonne, tu vois, 1700 kilos. Là, on est sur un engin qui pèse 100 kilos pour transporter 2 personnes et les courses.
Ah, effectivement. Rien à voir, quoi.
Rien à voir.
Pour donner d'autres ordres de grandeur, un vélo, c'est à peu près 12 kilos. Enfin, ça peut être entre 8 et 15, on va dire. Je parle d'un vélo musculaire, hein, sans assistance. Mm-hmm. Un vélo à assistance électrique, c'est souvent autour de 20-25, hein, quand même.
Oui.
Donc, 20-25 kilos. Là, que vous êtes plus lourd, mais c'est parce que vous avez 2 fois plus de roues, de la place pour 2 adultes, et puis vous avez une carrosserie pour vous protéger des intempéries, etc.
Donc, voilà.
Et donc des batteries qui vont avec aussi.
Voilà, sur le Végoto qu'on a actuellement, on a à peu près 11 kilos de batterie.
Ok.
11 kilos de batterie sur un poids total de 100 kilos, ce qui nous permet, si tu veux, ben voilà, de faire facilement nos 45 kilomètres ou 50 kilomètres avec 800 mètres de dénivelé à une vitesse raisonnable sur des routes partagées et à 2 personnes dedans.
Ouais, ouais,
voilà,
ouais.
En comparaison, les voitures électriques, elles dépassent les 80 ou 100 kilos de batterie.
Ah oui, 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 largement, oui.
L'ami, enfin, voilà, la petite amie, tu vois.
Elle a de chez Citroën.
Voilà, elle a j'osais pas le dire. Elle a 60 kilos de batterie.
Oui, oui, et encore, elle est extraordinairement frugale par rapport à une Tesla. Hein. Alors là aussi, ordre de grandeur. Non, mais on peut dire des marques, surtout c'est pour en dire du mal. Une Tesla, c'est de l'ordre de... Alors, ils ne communiquent plus trop dessus, mais on sait que c'est de l'ordre de 90 kWh de batterie. Je parle de la contenance électrique. Hein.
Oui.
Mon vélo, c'est un demi kWh de batterie. C'est-à-dire que c'est 180 fois moins de batterie qu'une Tesla. Mmh. Et pourtant, je fais 4 fois moins de kilomètres qu'une Tesla. Mais je le fais. Tu vois, c'est le rapport, il est infiniment meilleur. Sachant que les batteries, c'est pas sans impact. Hein, il faut aller creuser des mines pour fabriquer ces batteries. Et donc, même sur les batteries, on a intérêt à être sobre et à pas faire 200 ou 300 kilos de batterie, etc. Donc, vaut mieux faire des véhicules légers. Parce que à ce moment-là, avec une petite batterie, tu arrives à les faire aller loin.
C'est ça. Et les territoires ruraux ont le droit, j'estime, d'avoir eux aussi des solutions de mobilité autres que la voiture. C'est mon mantra.
Je ne peux pas être plus d'accord. Je sais la chance que j'ai, étant citadin dans une ville qui, en plus, comme Paris, a des pistes cyclables. C'est un modèle qui n'est pas simple à transposer et on peut l'adapter. Et c'est ce que vous faites, quoi. C'est-à-dire que dans la mesure où il n'y a pas de, on va pas mettre des pistes cyclables sur des routes qui sont déjà pas énormément utilisées, ça coûterait trop cher. Et puis de toute façon, il y a ces fameux 800 mètres de dénivelé qui sont à vélo. Voilà, c'est beaucoup, 800 mètres de dénivelé. Il faut vraiment un entraînement pour monter 800 mètres de dénivelé avec un vélo musculaire, mais avec une assistance, c'est plus facile. Et en plus là, bah, tu peux transporter tes courses, ton conjoint ou tes enfants. Enfin, voilà. Avec pour objectif, si vous passez au niveau industriel, d'avoir une réduction des coûts qui est sans commune mesure.
Hein. C'est ça, c'est tout l'enjeu de l'extrême défi de ce projet de l'ADEME, hein, qui est de réunir tous ces constructeurs-là de véhicules innovants pour arriver à, tu sais, à partager les coûts au moins sur certains types de composants, dont les batteries. Après, effectivement, chaque constructeur, comme je disais, il y en a une petite quarantaine, chaque constructeur conçoit les véhicules comme ses véhicules comme il a envie. Il y a des gens comme QBX, comme MIDI-P, comme EV4, qui font des choses vraiment intéressantes qui sont à suivre.
Alors, on a cité plein de marques. Tu disais tout à l'heure, ton constructeur, tu disais on va l'appeler Hugues, parce que tu voulais pas donner... Ça t'ennuie de donner... c'est gênant de citer ce qu'il fait, sa marque, ou pas. Moi, ça me dérange pas. Donc,
je vais te le citer. J'ai dit que c'était QBX, par exemple.
C'est lui,
c'est lui. Pendant quelques temps, si tu veux, il a souhaité rester confidentiel, dans le bois, le temps d'avancer sur son projet, et ça se respecte. Maintenant, on peut commencer à en parler.
Bon, juste une petite question avant qu'on conclue, parce que le temps a passé déjà. Il y a une partie finalement électronique et peut-être même informatique. Enfin, tu as une unité centrale qui gère la charge de la batterie, l'énergie qui passe dans le moteur. Technologiquement, c'est assez avancé. C'est lui qui le fait, il achète des kits, ils ont mutualisé...
Non, la plupart des constructeurs achètent les produits déjà existants sur étagère, c'est la garantie de prix moindre aussi. C'est important pour ces offres-là de pouvoir tirer les prix pour les collectivités locales qui souhaiteront s'équiper de ce genre de véhicule ou pour les particuliers.
Bien sûr.
Donc il y a, je suis désolée, mais il y a très peu d'informatique.
C'est intéressant, ça permet aussi de mutualiser en fait la recherche et le développement et donc de réduire les coûts.
C'est ça.
Derrière. Bon, qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi ?
Ah oui, une anecdote.
Allez, vas-y.
InVD, donc, on organise régulièrement des événements pour inciter les gens à essayer ces véhicules, les VAE, etc. Et donc, on a un événement qui s'appelle Roule tout doux, une semaine sans ma voiture, où on va dire aux habitants d'un village, par exemple, pendant une semaine, on vous propose d'essayer plein de solutions de mobilité autres que votre voiture solo. Et là, le président de la Comcom nous dit... Ah, mais votre truc, mais j'y crois pas du tout. C'est n'importe quoi. Je vous mettrai pas de bâton dans les roues, mais c'est pas la peine. Comptez pas sur moi. Et la semaine se passe. Un vidéaste nous fait un petit film qui est sur YouTube, d'ailleurs, qui s'appelle Une semaine sans ma voiture à Saint-Bosély.
Eh ben, écoute, je mettrai le lien.
Et puis, on organise une projection, une petite projection, ça dure 5 minutes. Un apéritif pour terminer les festivités. Et là, le président de la Comcom regarde ça, puis à la fin, il vient nous voir et il nous dit, eh ben, écoutez, franchement, j'y croyais pas, mais là, vous m'avez convaincu. Eh ben, moi, je dis chapeau. Voilà. Je dis chapeau parce que je m'attendais pas à ce qu'il nous dise ça et qu'il ait la simplicité, de nous le dire. Je me dis, ben voilà, un aigu comme ça qui dit ça, mais c'est super.
Ben oui.
Il y en a plein d'autres qui vont suivre.
Si seulement les gens pouvaient, comme lui, reconnaître quand ils se sont trompés, eh bien, le monde serait un petit peu meilleur quand même. Donc, on ne peut que le féliciter.
Oui.
Est-ce que tu as une lecture ou quelque chose à recommander, un film pour nos auditeurs ?
Mais oui, bien sûr. On est 6 associations à avoir produit un documentaire qui s'appelle Virage vers le futur et qui présente plein d'alternatives à la voiture dans les territoires ruraux. C'est un documentaire qui dure 55 minutes, qui est très sympa, qui montre des paysages magnifiques. Après, tous les Français voudront venir dans l'Aveyron, ça c'est sûr, mais on prend le risque, tant pis. Moi, j'adorerais qu'ils viennent à vélo, évidemment. Ça serait trop bien. Surtout que notre département tire l'oreille quand on lui parle d'aménagement sur les routes pour les cyclistes. Alors écoutez, si vous pouviez cet été venir en masse à vélo, après avoir vu Virage vers le futur, mais on fait the buzz ensemble, c'est trop génial. Ce documentaire est génial et il est là aussi pour susciter le débat, la discussion, donc à regarder sans modération. Et cerise sur le gâteau, on a eu un financement de la région Occitanie et on a complété le financement de toutes les associations, donc ce documentaire est gratuit.
Excellent. Excellent.
Et pas belle la vie.
Absolument. Et du coup, en conclusion, est-ce que tu auras un message court, positif et mobilisateur à passer pour nos auditeurs ?
Oui. Personne n'est à l'abri d'une bonne surprise.
Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille ?
Tu me demandais un message plein d'espoir. Eh bien, moi, je considère que des bonnes surprises peuvent arriver à tout moment. Dès qu'on décide de changer sa vision des choses, de regarder les choses autrement, on se met déjà dans de l'action, dans du changement soi-même. C'est génial. Et là où on pouvait être triste ou morose avant, on se rend compte que tout d'un coup, il y a plein de choses magnifiques qui arrivent. Et ça vaut le coup. Donc oui, personne n'est à l'abri d'une bonne surprise.
Voilà, si j'essaye de te paraphraser, c'est que on peut se surprendre, on peut arriver à changer des choses et que avec ce changement, se découvrir des capacités, se découvrir des possibilités, des perspectives qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Oh, tu le dis tellement bien.
Tu parles. Eh bien bon, ce sera donc sur cet éclat de rire et cette bonne humeur qu'on va se quitter. Je mettrai votre site web dans les liens et je remercie infiniment Hélène Jacquemin et InVD de leur temps. Et puis bon, on ira voir leur site, on ira voir leur documentaire et puis on ira faire du vélo dans l'Aveyron en masse. On ira se faire une masse critique en Aveyron avec des vélos partout.
Allez.
Même qu'on essaiera de grimper les 800 mètres de dénivelé.
Les chiches, on vous attend, c'est lancé.
Bon, c'est impeccable. Merci beaucoup Hélène, à bientôt sur les routes.
Avec plaisir, merci Tristan. Au revoir à tous.
Au revoir.